Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu Claudia Marois, infirmière pivot en soins à domicile dans les environs de Bécancour. Avec elle, nous parlerons davantage de comment accompagner un proche avec dignité, de ce que ça implique d'être proche aidant en soins à domicile et des services que les soins à domicile peuvent offrir pour les personnes qui sont malades. En bref, j'aimerais remercier aussi mes partenaires, dont Via 95 FM, dans laquelle je suis dans leur précieux studio présentement et que je parlerai davantage à travers mes réseaux sociaux de ma page Handicachée. Par la suite, je remercie la Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska, que je parlerai un peu plus à mi-parcours de cette émission. Ensuite, un petit coucou à Donald Martel, député de Bécancour Nicolas, de m'avoir encouragé, pour m'avoir encouragé, en fait, là, à travers ce beau projet. Merci et bonne écoute. Bienvenue au Handicaché podcast saison 1.
Merci.
Comment tu te sens d'être là aujourd'hui?
Bien, je me sens bien, je me sens un peu nerveuse. C'est loin de ma zone de confort, comme je t'avais dit quand tu m'as lancé l'invitation, mais je suis vraiment contente de participer à ton projet.
Bien, je suis vraiment contente que tu aies accepté aussi. Je sais pas si tu veux mettre un petit peu les gens en contexte, comment on s'est connus. Puis en même temps, je pense que ça va être une porte d'ouverture un petit peu pour que tu te présentes toi-même, que tu nous dises un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis un peu les rôles, les chapeaux que tu portes présentement dans ta vie.
Bien, dans le fond, on s'est connus dans mon contexte professionnel. Donc, moi, je suis infirmière pivot en soins palliatifs à domicile au CLSC de Fortéville. Donc, dans la région, là, près de Bécancour, j'ai accompagné, bien, dans le fond, j'ai accompagné toi et ta famille dans le contexte de maladie de ton père, qui est décédé l'année passée. Ça fait un an, là, dans le temps des fêtes.
Ouais.
Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. On a développé des liens, hein, veux, veux pas, on en parlera un peu plus loin, mais les liens qu'on développe en soins palliatifs sont forts quand même.
Oui, vraiment.
Puis, quand tu m'as lancé ton invitation pour le podcast, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, ah, oh, mon Dieu, moi, je fais un podcast, c'est loin de ma zone de confort, je suis pas nécessairement bien là-dedans. Mais quand tu m'as présenté ton projet, puis je sais quelle sorte de personne engagée que t'es, j'ai pas eu d'autre choix que de te dire oui.
T'es vraiment fine. Puis dans le fond, tu sais, si on parle un petit peu de soins à domicile, toi, t'étais intervenante, infirmière pivot. C'est quoi ton rôle, dans le fond, que aussitôt qu'un patient entre en soins à domicile, c'est quoi ton rôle quand tu entres en contact avec la famille ou avec la personne directement? Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? C'est quoi les premières approches, les premières démarches?
Dans le fond, moi, mon travail comme infirmière pivot, le mot pivot, ce qui veut dire, c'est que je suis l'infirmière principale au dossier. Donc, je suis un peu comme le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer dans son dossier. Je suis pas la boss de personne, c'est un travail d'équipe, mais je suis quand même là pour coordonner les services et les soins pour que tout se passe vraiment adéquatement dans le bon ordre pour le patient. Puis, en fait, c'est que comment ça fonctionne, c'est que je reçois une demande, c'est presque toujours soit de son médecin de famille ou d'un médecin spécialiste, là, un oncologue ou quoi que ce soit. Je reçois une demande pour un patient qui est en soins palliatifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un traitement, il n'y a pas de traitement possible pour sa maladie. Donc, le patient est atteint d'une maladie incurable, il n'y a pas de traitement possible ou le patient a refusé les traitements qui lui avaient été proposés parce que ça va au-delà de qu'est-ce qu'il veut comme soins, comme traitement dans ses volontés de fin de vie. Généralement, les patients qui ont un pronostic de un an et moins vont tomber dans mon équipe en soins palliatifs. Donc, oui, un patient peut des fois être en soins palliatifs pendant 2-3 ans, ça peut arriver, mais généralement, on essaie de cibler les patients qui ont un pronostic de vie de un an et moins. Donc, ils rentrent dans mon équipe de travail, puis moi, je vais évaluer à domicile ce patient-là pour voir un peu comment je peux l'accompagner dans sa maladie jusqu'en fin de vie. On se fait un plan de match, je l'évalue, je vérifie les incapacités au niveau de son autonomie, le niveau de soutien qu'il a dans son entourage, ses amis, sa famille, etc. Puis je vois, selon ses volontés, est-ce que la fin de vie est possible à domicile? Si oui, on le fait. puis avec tout ce qu'on a comme ressources. Et sinon, bien là, on a des plans B aussi. Puis des fois, c'est le patient qui ne veut pas décéder à domicile aussi, puis c'est bien correct. Là, on va respecter son choix. Lui, le patient est au cœur des soins, donc c'est lui qui décide de tous ses soins et traitements. Mm. Puis nous, alentour, on s'adapte à ses volontés.
Okay.
Dans mon équipe, peuvent être sous les soins à domicile sans problème. Parfois, c'est le pronostic de vie qui est comme trop long, dans le sens où si les intervenants, ben, si les médecins jugent en fait qu'il y a encore une bonne stabilité à avoir avec les traitements, parfois, ils ne les réfèrent pas tout de suite parce que le patient est encore très autonome.
Okay.
Si un patient est capable de faire toutes ces choses à domicile, qui est capable de conduire son auto, qui est capable d'aller chercher ses soins de santé, puis qui a quand même une bonne avenue avec les traitements pour que ça reste stable longtemps, ça se peut que l'oncologue juge que ce ne soit pas encore le bon moment pour nous transférer le dossier. Parfois, par expérience, les dossiers nous sont transférés un peu trop tard, c'est-à-dire que j'aurais aimé connaître le patient avant.
Ouais.
Des fois, j'ai une référence, puis un mois, deux mois après, le patient est déjà décédé. Donc, c'est sûr que j'aurais peut-être bénéficié de le connaître avant. Par contre, des fois, ce n'est pas possible non plus parce que tout dégringole en deux, trois semaines. C'est vraiment… les patients sont palliatifs, là, je les appelle souvent les boîtes à surprises. Puis tu le sais, il arrive des choses, on peut se dire, hey, c'est stable, ce soir, ça va bien.
Ouais.
La nuit passe, le lendemain, on a l'impression d'être complètement ailleurs. Puis la famille m'appelle en me disant, il n'y a plus rien qui fonctionne, mais la veille, ça fonctionnait.
Ouais.
Fait qu'on est toujours un peu dans la réorganisation, on se retourne vite.
C'est de l'adaptation.
Oui, absolument. En 24 heures, on change tout, des fois.
Bon, j'entends de ça. Je pense que moi, mon père a été longtemps dans une espèce de phase aussi d'acceptation qui était rendu à un point où est-ce qu'il avait besoin de soins à domicile. Puis que je pense qu'il faisait des petites cachettes un peu avec moi, là, parce que c'est moi qui conduisais pour l'emmener en chimio, des trucs comme ça. C'est moi qui allait sortir son chien. Puis ma grand-mère et beaucoup d'autres monde aussi qui l'ont aidé. Puis. Je pense qu'il a fallu qu'attendre que lui soit prêt pour vraiment nommer qu'il était plus capable puis qu'il avait plus, tu sais, vraiment, qu'il répondait plus aux critères pour recevoir la chimio. Fait que je pense que ça n'a pas aidé non plus pour qu'il reçoive les soins à domicile. C'est ça aussi qu'il ne disait pas tout.
Les jeunes patients, en général, c'est sûr que c'est la clientèle qui vont essayer qui va essayer de se montrer fort, mettons, devant tout le monde, puis surtout devant leurs enfants, parce que, tu sais, dans le fond, lui, son rôle social, c'est d'être ton papa. Fait que c'est sûr que s'il montre sa vulnérabilité devant toi, c'est certain que pour lui, c'est un gros deuil, déjà, en partant, là. Puis je sais, ton père, c'est un homme de tête. Fait que c'est certain que lui, il avait beaucoup de deuil à faire, là, dans sa vie, là, dans son autonomie, tout ça, puis tu sais, il était très jeune, là. Fait que c'est certain que dans ce temps-là, on est ailleurs, là.
Il savait que plus de chimio égal aussi, tu sais, ce qui s'en venait vraiment rapproché après qu'il y ait eu accès aux soins à domicile, fait que...
Puis souvent, les patients qui décident de ne plus avoir de chimiothérapie, c'est comme pour eux autres de dire «
J'abandonne. » Puis lui, il ne voulait pas abandonner.
Dans le fond, il voulait juste une affaire, c'était vivre. C'est sûr que pour lui, de dire « Je ne vais plus demain matin en chimio », ça veut dire que je lâche un morceau, ça veut dire que je ne suis pas assez courageux, ça veut dire que je ne suis pas capable de traverser ça. Ça, dans le fond, c'est tout des deuils, un après l'autre, là, de laisser les gens derrière eux, finalement.
Exact. Puis, je me demande, là-dedans, là, on parle du patient, mais pour les proches aidants, d'un patient qui est en soins à domicile, qu'est-ce que tu leur dirais en début de processus? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour bien accompagner leurs proches dès le début du suivi de l'accompagnement? Puis, même des fois, jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent comme tâche, comme responsabilité qu'ils prennent aussitôt qu'ils ont un suivi en soins à domicile?
C'est vraiment une bonne question parce que, dans le fond, la plupart du temps, quand ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas capable de garder un patient à domicile jusqu'en fin de vie, là, jusqu'à la toute fin, parfois, une des raisons, c'est l'épuisement des proches aidants. Puis l'épuisement des proches aidants, bien, ça se prévient, bien entendu, mais il faut que le proche aidant se rende compte aussi avant d'être épuisé. Puis ça, c'est une ligne qui est vraiment mince, OK?
Vraiment.
Quand on est proche aidant, on pense vraiment au début, là, tu sais, on est en forme, ça va bien, on pense qu'on est capable de tout faire seul. On ne veut pas déléguer rien à personne parce qu'on a le contrôle sur tout. Mm. Tout va bien, tout va tout le temps bien. Mais quand ça fait 3-4 nuits de fil qu'on ne dort pas de la nuit, là, on se dit, ouf, là, on commence à... Puis tu sais, je dis 3-4, mais des fois, c'est plus que ça, là.
Mm.
Mais tu sais, on est préoccupé, on a de la peine, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, rapidement, nous, ce qu'on essaie de faire, là, vraiment pour éviter là, l'épuisement des proches aidants, c'est vraiment de dire tout ce qu'on est capable de déléguer aux gens qui veulent nous donner un coup de main, on le fait. N'importe qui est capable d'aller avec son auto faire des commissions à la pharmacie, faire une commission à l'épicerie, peu importe. Là. T'sais, tout le monde est capable de faire ça dans notre entourage. Puis souvent, les gens veulent nous aider, mais ils ne savent pas comment faire. Ouais. Fait que quand on leur demande, irais-tu chercher la commande à la pharmacie? Parce qu'à la pharmacie, ils nous connaissent avec notre propre nom. Quand on est soin palliatif, ouais. Ils savent on est qui dès qu'on rentre à l'intérieur. Ouais. Quand on est capable de déléguer au bon moment en prévention, même quand on n'est pas fatigué, on s'assure d'être vraiment
garder correct. L'énergie jusqu'au bout, tu sais.
C'est rendu en fin de vie, dans les derniers jours, dernières semaines de vie, c'est énergivore au bout, là. Ouais. On s'entend. Ouais. Puis c'est là qu'on a besoin de notre énergie. Puis si on l'a tout dépensé au début, bien, c'est comme si on fait une course puis on part en sprint en début, bien, c'est sûr qu'on finira pas la course. Fait que c'est un peu ça, l'image que je donne, là,
au c'est vraiment vrai. Puis je pense que ça dépend, tu sais, de chaque personnalité aussi, un petit peu, comme tu disais, tu sais, on veut tout prendre sur les épaules, on veut tout gérer. Puis des fois, on s'en rend vraiment pas compte. Tout le monde nous le dit, tu devrais prendre soin de toi. Puis on est comme, ben non, tu sais, je prends soin de l'autre. Mais on se rend pas compte à un certain moment que si on prend pas soin de toi puis qu'on s'arrête pas, ben tu seras plus capable d'aider l'autre personne. Tu sais, fait que ça va servir à rien de s'épuiser puis à se mettre jusqu'au bout du rouleau. Tu sais, il faut prendre les bouées que les gens nous prennent. Puis à un moment donné, je pense que c'est ça, de mémoire, là, ça fait juste un an, puis tu vois, c'est déjà flou, mais il a fallu, tu sais, qu'on mette en place un calendrier, puis que je dise, bon, là, il faut que je prenne de l'aide. Fait que toutes les gens qui voulaient nous offrir de l'aide, tu sais, on avait fait une liste. Mon père m'avait dit, je te laisse gérer ça. Il y avait de la misère parce que, tu sais, lui, sa bulle, c'est important quand même. C'est quelqu'un de sociable. Oui. Que tout le monde, il aimait tout le monde, mais... c'était quelqu'un que dans son cocon, il voulait sa famille, il voulait sa mère, il voulait sa soeur, il voulait ma soeur. Puis après ça, dans sa vulnérabilité, il avait de la misère à accepter les autres. Il t'aimait tellement toi. Toutes les personnes des soins à domicile aussi, tu sais, ça n'a pas été trop long que le lien, ça s'est fait. Mm-hmm. Mais à part ça, c'est difficile pour lui de se montrer comme il était à la fin devant les autres.
Oui, parce qu'on se montre dans toute notre vulnérabilité, là, dans le fond, là, c'est ça, là.
T'sais, même lui, il avait de la misère à accepter ses pertes de capacité physique et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Mais j'ai dû, tu sais, un petit peu y parler puis y exprimer aussi que je commençais à ressentir les symptômes de fatigue puis je voulais pas tomber. Puis lui, clairement, non plus, voulait pas que je tombe, tu sais. Mais il a fallu se rendre à l'évidence de ça, autant de son côté que de mon côté. Puis je pense que c'est juste d'adresser puis de s'en rendre compte ensemble, tu sais, que... prendre les meilleures solutions possibles. T'sais, là, on parle d'un calendrier de un peu de tâches. Là, tu parlais de pharmacie, puis c'est drôle parce que justement, hier, j'ai retourné à la pharmacie, puis t'es comme, hey, tu viens plus souvent, tu sais, mais ça fait longtemps, tu sais, que je viens plus, là, tu sais. Fait que c'est ça, on se rend pas compte de toute la charge quand on est proche aidant.
Vraiment.
Mais c'est beaucoup, puis ce qu'on donne tout à la personne, on peut pas le donner pour nous à la maison aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que calendrier de tâches, ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup aidée.
Ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Ouais. Parce que, dans le fond, quand on se met à prendre toute l'aide qui existe dans les organismes communautaires, dans nos amis, dans notre entourage, les voisins, juste un petit service, des fois, ça paraît pas. Mais si on prend une petite partie de chacun, bien, on se libère de beaucoup de tâches. Puis, je trouve que le mot « proche aidant », maintenant, on l'entend partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, tu sais? Proche aidant, on entend ça partout, c'est populaire, tu sais, on entend proche aidant, mais au-delà de ça, je trouve vraiment que le chapeau est grand à porter pour un proche aidant, puis c'est lui qui fait, le proche aidant ou les proches aidants, c'est vraiment eux qui font tous les soins et services pour le patient à domicile, fait que ça veut dire qu'ils couvrent environ de 22 à 23 heures sur 24. Auprès du patient. Nous autres, là, tu sais, les gens souvent nous disent « Hey, si vous n'aviez pas été là, on n'aurait jamais été capable. » Mais si vous n'aviez pas été là pour faire 23 heures sur 24, on n'aurait jamais été capable, nous autres non plus.
C'est ça. Tu sais, moi, c'est le jour, puis ma mamie, elle, c'était le soir puis la nuit, tu sais. Fait qu'on se relayait, tu sais, elle allait faire ses choses de jour chez elle, puis moi, c'était le soir puis la nuit, je retournais chez moi. Fait que, tu sais, puis c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, on aurait peut-être pas été capable de le faire quand même si vous n'auriez pas été là pour nous guider là-dedans, tu sais, puis nous épauler, puis nous référer au bon service, au bon moment, puis être juste d'un épaule, d'une écoute aussi là-dedans, puis, tu sais, là, tu parlais de service tantôt pour les proches aidants, tu sais, on te parlait d'organisme, il y a de l'aide pour le ménage, si je me souviens bien.
Ouais, c'est
il y a,
ça.
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez nous offrir, puis aussi, je pense, un soutien psychologique à ce moment-là
ouais, pour les proches. Oui, on est une équipe, c'est ça. On est une équipe complète de travail, là, tu sais, toutes les ergo, inhalo, travailleuses sociales, les préposés à domicile. On a vraiment un éventail de services au niveau du CLSC. Il y a les organismes communautaires, eux autres, qui vont aider pour l'entretien ménager, la présence surveillance, la préparation de repas. Il y a l'association des proches aidants aussi qui sont là pour supporter les proches. Il existe, quand on sait l'éventail de services, nous autres, c'est notre rôle comme pivot de présenter l'éventail de services, de les offrir au bon moment aussi. Parce que quand le patient, on le rencontre au début, parfois, il est encore assez autonome, il a besoin de rien. Mais au fil du temps, c'est sûr qu'il faut greffer des membres à notre équipe de travail pour que tout fonctionne bien. Il ne faut pas le faire en retard, il faut le faire au bon moment. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu parlais tantôt au niveau des proches aidants que nous, c'est important qu'on soit là aussi. C'est un travail d'équipe, dans le fond.
Oui.
Nous autres, on est là pour vous créer une boîte à outils pour que vous soyez capable de soigner votre proche. Quand on devient un proche aidant, là, on ne devient pas proche aidant, on ne porte pas le chapeau de proche aidant en tout d'un coup en sachant c'est quoi de la morphine, de la scopolamine, du Percet. Faut donner ça aux 4 heures, aux 2 heures. C'est quoi les signes? C'est comment je fais, moi, pour savoir que je fais la bonne action?
Ouais.
Est-ce que je vais... Tu sais, il faut tout démystifier, tout ça. Oui. Fait que ça, c'est notre rôle à nous, dans le fond, d'outiller les proches aidants pour qu'ils soient capables de bien prendre soin de la personne. Là,
exact.
Qui est en fin de vie, finalement. Parce que, tu sais, faire tout ça à travers les émotions, c'est beaucoup. C'est un gros chapeau à porter. Mais je trouve que quand on prend ça une bouchée à la fois, là, je ne peux pas arriver, moi, à la première ou deuxième rencontre puis de dire, à un moment donné, là, vous allez avoir à évaluer la respiration, la douleur, l'anxiété, puis vous allez avoir à donner des médicaments qui s'appellent, tu sais, des noms qu'on n'entend pas souvent. Vous allez avoir à donner ça en injection, à travers un petit papillon. Puis tout ça, si je dis ça à la première visite, c'est certain que le proche aidant va me regarder en me disant, hey, je ne serais jamais capable de faire ça.
Il faut t'attendre de créer un lien de confiance aussi là-dedans pour...
Il faut le faire au bon moment, dans le fond. Tu sais, chaque petite bouchée se prend au moment où est-ce qu'il faut le faire, finalement, puis... C'est un peu ça, là.
C'est un peu pour ça, je pense que, exemple comme moi, moi, il y a des choses peut-être que j'aurais voulu savoir, peut-être qui m'auraient moins marqué dans un sens, ou mais peut-être pas non plus, tu sais, parce qu'on peut pas savoir une fois que c'est passé, mais c'est sûr que savoir tout ce que ça l'importait en fin de vie, mettons, là, ça me dérange pas d'en parler non plus. Puis là, tu parlais d'injection, puis tout ça, tu sais, puis ça a l'air gros quand on en parle, mais justement, tu sais, quand on est rendu dedans, dans cette vague-là, que mon père avait choisi d'être à la maison, on embarque dans ce bateau-là, ça a l'air un peu percutant de dire que tu injectes des médicaments intraveineux, mais...
Je vais juste te corriger, là, on ne donne pas d'intraveineux.
Pas d'intraveineux!
Non. En voie succutanée, mais
non, c'est
pas
ça. Je dis pas les bons termes, là, mais...
pas de problème.
Ça a l'air ça, mais... Tu sais, on le fait d'emblée, puis on embarque dans ce bateau-là, puis on a juste, on dirait, pas le choix. Puis l'important, je pense, c'est d'être bien entouré aussi là-dedans, puis d'avoir aussi quelqu'un, en tout cas pour moi, qui prend la relève à un certain moment. Puis il faut aussi savoir c'est quoi ses limites personnelles, parce que je te dirais que un petit peu de comment on dit ça, de familles qui sont juste venues prendre la relève avec nous. Il y a eu sa cousine infirmière aussi qui était venue nous aider, tu sais, puis nous aider à prendre un petit peu de repos puis comme avoir moins de charges, je dirais, médicales, parce que charge émotive, là, ça en prenait beaucoup, là. C'était beaucoup d'émotions, là, à ce moment-là. Je sais plus où est-ce que je voulais m'en aller là-dedans, mais tu sais, si ça aurait continué longtemps, parce que mon père est décédé, dans le fond, le 26 décembre, à 15h et je me rappelle même plus. Mais environ, tu sais, puis si ça aurait duré plus longtemps, on était beaucoup, mais je suis pas sûre que j'aurais été capable de continuer à domicile. Mettons. Je sais pas si ça l'arrive, c'est une question que je vais te demander. Est-ce que ça l'arrive que pendant ce processus-là, qu'il y a des proches qui lèvent le drapeau puis qui disent on n'est plus capable au niveau de l'énergie, ça marche plus? Mettons, nous, ça aurait pas été le cas parce qu'on était quand même beaucoup pour prendre la relève. Mais si j'aurais été toute seule avec ma sœur, je pense qu'on n'aurait pas tenu.
Oui, ça arrive. Généralement, les gens, ils puissent quand même toute une adrénaline là, dans les derniers jours de vie. Là.
Ouais.
C'est pas rare qu'après coup, j'entends souvent des discours de même, « Ah, oh, si on avait eu encore 2-3 jours, je pense que j'aurais pas été capable. Ouais. » Mais en vrai, moi, je pense que vous auriez été capable et qu'on aurait trouvé des solutions rendues là.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas idée à quel point on est épuisé quand on a pris soin de quelqu'un, parce qu'il y a la fatigue, tu sais, il y a quand même la fatigue émotionnelle qui est là, là qui est beaucoup. Il y a la fatigue physique, mentale.
Ouais.
Puis il y a tout le après aussi qu'il faut s'occuper. Là, fait que ça en fait quand même pas mal.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que si on prend une bouchée à la fois dans tout le processus jusqu'en fin de vie, je trouve qu'on décortique tout ça. Chaque étape, on le décortique, on vous explique du mieux qu'on peut avec des mots simples.
Oui.
Puis tu sais, dans le fond, là, au final, là, tu sais, des fois, les gens me disent, « Mais moi, comment je vais faire pour savoir si je suis rendue au moment où est-ce qu'il faut que je donne une médication? Comment je vais faire pour savoir si mon père est souffrant ou va pas bien? » Puis je dis tout le temps, ma phrase, c'est tout le temps, « On n'a pas besoin d'être infirmière pour savoir que notre père va bien ou pas. » Si on rentre dans sa chambre, en un regard, on peut savoir si, « Est-ce que mon père va bien ou va pas bien? » Si la réponse est oui, parfait, on continue avec la recette qu'on a. Si la réponse est non, mon père va pas bien, parce que tu es la meilleure personne pour savoir ça, là, on se demande, bon, OK, c'est quoi la cause? Mon père va pas bien, c'est quoi? Y es-tu souffrant? T'sais, y a-tu de la douleur? Y a-tu de la misère à respirer? Y a-tu l'air anxieux? Y a-tu... Tu sais, on a quand même différentes catégories, là, où est-ce qu'on peut agir, puis on sait après ça vers quelle médication ou quelle... Il y a pas juste des médications, là, des fois, tu sais, il peut... Je sais que ton père aimait la musique, tu sais, il y avait certaines choses qu'on faisait, donc là, on oriente. Fait que c'est pas de dire, « Hey, je suis pas infirmière, moi, je serais jamais capable. » Non, tu sais, on développe.
On développe des habiletés. Je pense que c'est vraiment ça, puis c'est au fur et à mesure, puis c'est pour ça que l'équipe de soins à domicile que je vous ai trouvé autant importante là-dedans, c'est que nous dire tout d'un coup aurait été comme un choc, mais à force de le traverser avec vous, tu sais, étape par étape, ça nous a vraiment aidés. Puis tu parles justement de en un regard, on le sait, tu sais, puis mon père, je pense qu'il était capable de l'exprimer quand même. Enfin, même s'il commençait à moins parler, là, mais tu sais, moi, je le voyais, là, tu sais, exemple que il prenait sa... Il y avait une marchette. Au bout de ses forces, là, le 24, 25, là, avant qu'on demande, là, peut-être commencer le protocole de détresse respiratoire, parce que on sait que c'était sa peur de suffoquer aussi. Mais là, je le voyais, il marchait, il parlait pas, puis il marchait avec sa marchette. Il faisait des 100 pas autour de l'îlot. Là, je savais, OK. Il était dans le même... Fait que ça voulait dire, comme j'ouvre la porte, puis j'essayais de faire rentrer de l'air, puis il débarbouillait, puis on le calmait, mais veut pas. C'était quand même anxiogène pour nous autres.
Oui, absolument.
De savoir que ça allait pas, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est de prendre étape par étape, puis de se fier aux signes aussi, puis tu sais, je pense que quand la personne, après, tombe dans une espèce de tu me corrigeras, là, mais de coma, tu sais, ce que Annie, l'infirmière, me disait, puis l'autre personne en soins à domicile, c'était pas toi, là, mais...
C'était ma collègue.
Oui, c'était ta collègue. Elle me disait, tu sais, on peut regarder les sourcils aussi, regarder s'ils sont plissés, essayer de changer la personne de position, parce que même s'ils sont plus conscients, on peut quand même voir des signes. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on se fait enseigner au fur et à mesure, puis que c'est sûr que quand on entend tout ça, ça peut être confrontant, mais qu'on fait juste le vivre, puis qu'à travers ça, il y a des beaux moments, tu sais, quand même.
Oui, c'est ça. Puis vous autres, dans le fond, tu sais, en tant qu'aidant, ben vous, tu sais, vous suivez un peu la vague, vous vous laissez accompagner par nous autres, puis nous autres, on est là pour voir déjà... Moi, je suis tout le temps dans au moins une semaine d'avance là, que je me dis, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, dans le prochain 24 heures, mais dans les prochains jours, c'est quoi les prochaines étapes?
D'avoir le protocole, parce que c'est un médicament, justement, que ça prend le médecin.
Oui, c'est une combinaison de 3 médicaments qu'on administre temps pour, pour une détresse respiratoire.
C'est ça, c'est exactement
ça. Ça se peut là, que ça soit là.
Oui, mais c'est ça. Puis je pense que la morale de tout ça, de ce qu'on a vécu, nous... mettons, tout ce qui est morphine, des trucs comme ça, tu sais. Je pense que c'est de le prendre aussi un peu en riant quand il y a des choses qui se passent. Tu sais, exemple, tu sais, là, j'en ris parce que j'imagine encore, mais c'est la première fois que je voyais vraiment un effet de morphine à mon père, tu sais. Puis, il y a une fois, il y en avait peut-être un petit peu, ben pas trop pris, mais je pense que la dose était, tu sais, c'est en ajustement, là, veux, veux pas, là.
Ouais.
Puis, il y a une fois qu'il essayait de boire, mais il était juste pas capable. Puis, même lui, il riait parce qu'il était pas capable d'attraper la paille, ou tu sais. Il y a une fois, il dormait, puis j'étais à côté, puis j'ai flatté les cheveux, puis là, il était juste comme, hey, j'ai brisé mes lunettes, tu sais. Là, j'étais comme, ah ouais, où ça, tes lunettes? Ben, elles sont dans mes mains, j'étais en train de les briser, tu vois pas, tu sais. Mais mon père, il les avait sur ses yeux, tu sais. Fait c'était juste comme, ben, c'est pas grave, là, tu sais, je vais t'en donner d'autres, des lunettes. Fait pas faire prendre conscience à la personne qu'il est en train d'avoir des effets de la morphine, puis de renchérir là-dessus, je pense, de rester
Dans l'humour, ouais. Puis, c'est ça, dans ouais. l'humour, puis dans ah, la ouais. légèreté aussi,
ben oui, là, parce à travers que tout ça. C'est des choses normales qui peuvent arriver, puis c'est juste d'en parler aussi, puis d'en être conscient que ça peut, c'est des choses qui arrivent, puis, tu sais, il y en a, c'est peut-être des effets moins drôles, là, comme, mettons, moi, mon grand-père, il réagit carrément différemment. Lui, c'était comme, il faisait des espèces de cauchemars où ça venait un peu plus noir, lui, ses effets là-dessus, mais je me rappelle, il était à l'hôpital, c'était en centre hospitalier, puis il avait vu un babillard. Puis là, il y avait un mot, je ne sais pas trop, là, on va dire c'est Andy caché. Puis là, il était là, Andy caché, c'est des bandits. Puis là, il avait peur de l'infirmier, mais il ne parlait pas trop. Tu sais, c'était comme...
C'était plus un peu dans la paranoïa.
Ouais, ouais, c'était la paranoïa, là. Ça ne faisait vraiment pas beaucoup la morphine, mais tu sais, c'est ça. C'est de prendre chaque étape, tu sais, à petite cuillère. Puis ouais. de, je pense, de prendre chaque bouée qui nous arrive. Puis tu sais, c'est ça, de profiter de chaque petit moment. Petit moment de pause pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet Yamaska. Saviez-vous que chaque année, la Fondation investit en moyenne 100 000 $ en dons? Voici les 5 dernières années. Donc, en 2021, la Fondation a amassé plus de 155 000 $. En 2022, plus de 100 000 $. En 2023, 119 000 $. Et en 2024, 169 000 $. Des dons moyens de 141 500 $ au cours des 5 dernières années. Si vous voulez les encourager, allez sur leur site internet au www.fondationsantebny.ca et bon reste d'émission. On est allé se coucher parce que ça faisait quand même depuis, je sais plus, depuis le 24 au matin, tu sais, qu'on était vraiment, on essayait de se relayer, puis là, il y avait beaucoup de monde qui était arrivé chez mon père, puis il était là pour s'occuper de lui aussi. Fait qu'ils nous ont dit, allez vous coucher, tu sais, puis vous allez comme vous relever plus tard, tu sais, on va vous réveiller. Puis fait que je me rappelle, moi, je me suis couchée, puis je le regardais, tu sais, puis il s'en allait à la toilette, puis avec sa petite marchette, puis t'allais s'asseoir. Puis dans la nuit, ils nous ont réveillés. Puis pour nous dire qu'il était parti dans le coma, tu sais. Ça a pris peut-être une heure ou deux. Ou c'est au moment où on a été se coucher. Puis je me suis réveillée à ce moment-là, puis c'est sûr, je pleurais, parce qu'on dirait, je me disais dans ma tête, je ne le reverrai plus jamais, tu sais. Ses yeux m'ont regardé. Mm-hmm. J'ai manqué ce moment-là. J'avais tout donné avec lui pour être avec lui, puis je voulais comme être là dans chaque étape. Puis je me disais, j'ai manqué ce moment-là, le dernier moment que... J'allais avoir un contact avec lui, puis c'est tellement resté fort dans ma tête, je pensais juste à ça. Je prenais le bras, j'avais envie de le checker quasiment, puis de le réveiller pour le regarder, mais tu sais, j'étais contente qu'il soit là mieux, serein, en paix, dans un espèce de coma qui est assez, je vais pas dire traumatisant, mais c'est surprenant. Tu sais, on m'avait averti, tu sais, un bruit de la respiration qui peut être assez fort. Mm-hmm. Fait qu'il y avait ce bruit-là, mais il était bien au niveau, tu sais, physique, on pouvait voir dans son visage, il était correct. Mais bref, où est-ce que je voulais en venir, c'est que le lendemain, parce que ça a duré quand même un petit moment, le lendemain, l'avant-midi, tout ça, il y avait un casse-tête que les proches aidants, puis tout le monde venait, quand ils venaient visiter mon père, on mettait des petits morceaux ouais. du casse-tête.
Je m'en souviens.
Puis les deux derniers matins, mon père se réveillait, puis il parlait quasiment plus, c'est ça. Puis il disait, « Les filles, finissez le casse-tête! » Sauf la personne qui parle, là. Puis... fait que c'est ça, dans le fond, le matin même, du jour qu'il est décédé, ma soeur, elle a fini le casse-tête. Puis elle a été le voir pendant qu'il était dans le coma, puis elle a dit, papa, le casse-tête est fini, là, tu sais, tu peux t'en aller, tu sais. Puis là, dans le fond, le matin, il y a eu le midi, puis là, je me disais, je vais essayer de me coucher, tu sais, parce que j'étais vraiment brûlée encore, mais on dirait que j'étais pas capable. Tu sais, j'étais dans le lit, je tournais d'un bord, je tournais de l'autre, puis je me disais, mais tout d'un coup, qu'il parte, puis que je suis pas là, puis... J'avais comme un sentiment, là. J'étais pas capable, pantoute, de dormir. Même si j'étais tout le temps sur le bord, ça me disait « réveille-toi ». Fait que je me suis levée, puis là, j'étais à côté un bon bout, tu sais, puis il n'y avait pas de signe, il n'y avait pas rien. Fait que j'étais dehors. Puis là, je me rappelle plus, j'étais supposée rester dehors. Puis là, finalement, je me suis dit « non, je rentre en dedans, je vais aller jeter mon bout de morphine, je reviendrai dehors, tu sais. Ah oui, pour aller avec le chien. » Puis je me suis dit « non, je vais rentrer en dedans avant, je vais aller voir si tout est correct. » Puis j'ai été jeter mon bout de papier. Puis quand que je suis revenue à côté de lui, il y avait Suzanne, il y avait mon conjoint qui s'était levé aussi. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai vu qu'il commençait à avoir les lèvres bleues. Puis tout d'un coup, dans le cou, là, je me suis dit, c'est ma fatigue qui embarque, là, c'est quoi, là? Est-ce que vous voyez en même affaire que moi, tu sais? Puis là, je me suis assis, puis aussitôt que je me suis assis, il s'est réveillé, comme. Il s'est ouvert les yeux. Puis là, il m'a regardé. Mais comme, pas un regard effrayé, pas un regard apeuré, en train de suffoquer, comme que lui, il avait peur d'avoir aussi. Il était juste serein. Puis c'est là que j'ai crié à tout le monde, c'est « Hey, réveillez-vous! » Parce qu'il y avait du monde partout qui dormait, tu sais. Puis je pense que ta collègue était là aussi. Fait que juste dit « C'est le moment, tu sais, venez-vous-en. » Puis là, j'y parlais, tu sais. Puis on se regardait. Puis on a eu ce petit contact-là. Puis je lui disais « Tu peux t'en aller, tout va bien aller. Je te le promets, tu sais. » Puis c'est lui-même qui est parti. Puis je focusais juste sur ses yeux. Qui était juste vraiment bien, puis ça a été un cadeau pour nous autres qui partent en paix comme ça, entourés de tout son monde qui voulait puis qui avait choisi pour être là à la fin. Fait que, tu sais, quand on regarde les yeux de mon père à la fin, on le voyait qu'il était bien, puis je pense que c'est de suivre cette intuition-là aussi en tant que proche aidant, puis si on suit ça, puis qu'on suit les recommandations, puis qu'on prend une petite cuillère à la fois, c'est là qu'on peut vivre des beaux moments comme ça aussi à travers ce sentiment-là, contradictoire de vouloir le garder puis en même temps de le laisser aller parce que la souffrance était trop grande. Là.
Je pense que ça, c'est difficile à expliquer justement pour un proche qui l'a vécu. Là, on voit que notre personne qu'on aime, même si ça ne démontre pas des signes de souffrance, on voit quand même à travers la maladie là, ouais. qu'elle va décéder dans quelques heures, quelques ouais. jours. Des fois, on veut la garder le plus longtemps possible. Mais en même temps, on sait là, qu'il faut la laisser partir. Puis ça, c'est difficile parce que, tu sais, quand on… Peu importe l'âge, mais quand on est plus jeune,
ouais.
ben c'est pas dans l'ordre des choses là, de perdre notre papa jeune comme ça. Fait que c'est certain.
C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est de voir la beauté dans chaque petit moment qu'on peut avoir. Puis c'est de saisir chaque occasion parce que… Juste le fait que j'avais pas eu accès à ce petit regard-là, moi, ça m'avait hanté. Mais, tu sais, on dirait qu'il m'a fait un autre cadeau, tu sais…
Ouais.
De comment qu'il est parti, j'avais ce regret-là de ne pas avoir pu le regarder puis dire « Je t'aime, tu peux t'en aller.
Mm-hmm. »
Puis pourtant, on se l'était dit le 24. Puis
ben oui, ben oui.
À chaque jour, tu sais, aussitôt qu'on pouvait, à la fin, j'avais, tu sais, je ne pouvais rien dire, puis je savais. Là, mais il m'a comme fait ce cadeau-là, puis je pense que c'est ça. C'est de voir tous ces beaux petits signes-là, ces beaux moments-là, dans l'accompagnement en fin de vie, même si c'est difficile. C'est de s'accrocher à ça, de s'accrocher en famille.
Oui, puis ça laisse place vraiment à des beaux moments, justement, en famille. Ouais. Là, moi, j'ai des familles, des fois, que je côtoie, là, que les enfants, mettons, dans quarantaine, cinquantaine, puis là, ils reviennent à la maison familiale pour s'occuper des parents, puis là, ils dorment sur place. Fait que les trois enfants, exemple, le matin, se lèvent, puis ça leur rappelle quand même, c'est 30 ans passés là, qu'ils se levaient le matin ensemble. Puis là, ils se racontent des histoires de quand ils étaient jeunes. On entend ça, on rit. Ça laisse vraiment place à des beaux moments parce que les gens, en général, quand ils me demandent qu'est-ce que je fais comme travail dans la vie, mettons, puis que je réponds un peu, bon, je suis infirmière en soins palliatifs, je fais de l'accompagnement en fin de vie à domicile, je guide, tout ça. Eux autres, spontanément, ils pensent que c'est un travail triste. Que c'est un travail, qui est demandant émotivement, tout ça. Mmh. C'est vrai que c'est demandant émotivement, c'est vrai qu'il y a des moments de tristesse, mais je le dis souvent, puis je suis pas gênée de le dire, j'ai jamais autant ri que depuis que je travaille en soins palliatifs, parce qu'on développe une complicité qui est tellement intense avec les familles, puis avec le patient aussi, là, en tant que tel, là, c'est que ça laisse vraiment beaucoup de place au rire, là. On rentre dans quand ça fait 7, 8 mois, un an et demi qu'on soigne le patient, on rentre chez lui, tu sais, on fait partie de la famille, là, vraiment, là.
Tu rentres vraiment dans son intimité, dans ce qui est la personne, carrément, tu sais.
C'est ça. Ça laisse place vraiment à des beaux moments, ça. Là. C'est un travail qui est vraiment enrichissant aussi.
Puis, tu sais, je vais toujours me rappeler, tu sais, puis un autre aspect pourquoi que je trouve que vous êtes vraiment important dans la vie des familles. C'est un moment, je ne suis pas gênée non plus d'en parler. Dans le fond, tu sais, moi, mon père, il a demandé l'aide médicale à mourir à un certain moment. Puis avant, tu sais, il y a eu comme plusieurs... Mais manière de penser. Avant, je pense qu'il était comme plus contre. Il a été pour au début, après ça, contre. Puis là, il y a eu un moment où est-ce que t'étais là. Puis il n'en avait pas parlé, puis c'était tellement correct. Puis je pense qu'il était au bout de ses souffrances, puis il l'a demandé, tu sais. Puis finalement, La vie a fait peut-être en sorte qu'il n'y en ait pas eu. Mm-hmm. Ça ne s'est pas passé comme ça.
Ouais.
On a eu quand même une belle fin de vie avec... Ben, il a eu une belle fin de vie quand même, puis tout s'est bien déroulé. Mais tu sais, il s'est quand même vraiment ouvert à toi, puis tu as été sa confiance pour qu'il soit capable de dire « Je suis plus capable, je veux l'aide médicale à mourir. » Tu sais, puis je pense que c'est une confiance justement qui témoigne de votre travail, puis de ce que vous faites pour les personnes qui souffrent, tu sais, puis, tu sais, on est vraiment proches, moi et mon père, mais avec le lien émotif qu'on avait, il aurait peut-être pas été capable de me le dire aussi, tu sais, fait que je trouve ça important, tu sais, de, quand tu parles de lien, tu sais, c'est ça, c'est la personne, elle s'ouvre à toi, elle s'ouvre à son monde, puis à ses besoins, puis quand tu dis que la personne, elle passe avant tout. Tu sais, dans ce processus-là, pour vous, bien, je l'ai vraiment vu à ce moment-là, tu sais, comment que lui s'est senti écouté avec vous, puis c'était... On n'aurait pas pu avoir mieux que, comme équipe de soins à domicile que votre équipe à vous, tu sais.
Ah, bien, tant mieux, je suis contente d'entendre ça, ouais. Là, ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais oui, c'est toute une paire de manches, là, tu sais, de... Tu sais, dans le fond, on rentre, premièrement, on rentre dans la maison privée des gens. Souvent, ouais. On rentre dans leur chambre à coucher, on ouais. rentre dans leur intimité, ouais. Dans leur vulnérabilité. Il n'y a pas personne presque de plus vulnérable que quelqu'un, tu sais, qui est en fin de vie puis qui perd son autonomie, là.
Ouais.
Tu sais, surtout, tu sais, encore là, c'est pas une question d'âge, mais il reste que l'exemple de ton père, tu sais, début cinquantaine, perdre son autonomie, tout ça, tu sais, il reste que c'est pas... C'est pas commun, là. C'est vraiment difficile, ça, à prendre.
Ouais.
Mais notre rôle, c'est ça, dans le fond. C'est vraiment de l'accompagner dans toutes les sphères. C'est pas juste la sphère physique, là. C'est psychologique, c'est tout ça, là.
C'est tout, tu sais.
Ouais.
Puis on parle d'aide médicale à mourir, dans le fond. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, aujourd'hui, tes connaissances à ce sujet-là, un petit peu les protocoles, comment ça se passe, puis comment vous gérez ça en soins à domicile quand il y a une demande comme ça qui est faite par le patient, dans le fond? C'est quoi un petit peu la suite des choses normalement?
Dans le fond, nous autres, là, moi, chez un patient, je peux arriver à la première visite à domicile, commencer à parler des soins palliatifs à domicile, puis déjà, il va me dire, moi, je sais c'est quoi mon plan de fin de vie, je veux l'aide médicale à mourir. Déjà, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent,
okay.
Puis il y en a que ça s'éclaircit au fil du temps. Il y en a qui vont continuer des traitements en soins palliatifs pour essayer de prolonger leur vie, puis que finalement, c'est plus possible, puis qu'ils envisagent l'aide médicale à mourir parce qu'ils ont des souffrances qui sont c'est des souffrances physiques ou psychologiques, là, qui sont pas contrôlées, là, par... soit la médication ou autre alternative, dans le fond. Comment ça marche, c'est que quand le patient manifeste le désir d'avoir l'aide médicale à mourir, c'est qu'on fait une demande formelle à son médecin. Donc, c'est un formulaire qu'on remplit ensemble, moi et le patient. Vraiment pas compliqué, là, devant témoin. Puis, on achemine ce formulaire-là à son médecin de famille. Puis ensuite, il faut que son médecin de famille évalue le patient pour voir s'il correspond aux critères d'admissibilité. Puis, il faut qu'il y ait un collègue médecin aussi qui fasse une deuxième évaluation pour savoir s'il correspond aux critères. Une fois que ces deux évaluations-là sont faites et que le dossier est accepté, le patient, par la suite, va pouvoir éventuellement décider, bon, d'un moment, d'une date, d'un lieu. C'est lui qui choisit encore là, dans la mesure du possible, son plan. On a eu quand même des demandes spéciales dans des aides médicales à mourir. Là, j'aurais aimé ça donner des exemples, mais je peux pas détailler parce que ça va trop identifier les patients, puis j'ai quand même
une bonne zone de confiance.
Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, je le respecte vraiment. Okay. Parce qu'en région, comme ici, dans le fond, on s'aperçoit vite que tout le monde se connaît ou que tout le monde est à peu près cousin avec tout le monde, de proche ou de loin. Dès qu'on donne un petit détail, on sait déjà de qui on parle. Des fois, j'arrive chez un patient, je fais une deuxième visite dans la même journée ou le lendemain, puis la première chose que je sais, c'est « Hey, hier, t'es allé chez ma cousine! » Ah, ben, coudonc, je savais pas, tu sais.
Les nouvelles vont vite.
Ouais, vraiment. Puis, c'est vraiment comme ça que ça se passe pour vrai. Tout le monde se connaît. On fait vraiment attention. Ça, c'est une des choses qu'on dit, qu'on répète là, aux patients, que nous autres, on a à cœur la confidentialité dans nos dossiers parce que, tu sais, quand t'es la personne malade ou la famille, puis que t'entends parler au village, tu sais, tout le monde nous pose des questions tout le temps, nous autres, sur les autres personnes. Puis, on répond toujours. Si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez l'appeler.
Demandez directement,
exactement.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment important comme sujet. Ouais.
Puis justement, tu sais, tu parles de ça, puis c'est quelque chose que je m'étais préparé un petit peu, que ça aurait pu se passer rapidement, que les gens allaient savoir que mon père était décédé, puis c'est quand même une personne qui était connue, puis c'est pas pour juste dire ça, puis dire qu'il était connu, puis la tête en l'air, c'est vraiment pas ça, c'est qu'il était connu.
Oui, oui, c'est vrai.
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me saluent, puis que je reconnais pas, puis que c'est à cause de mon père. Fait que, tu sais, je m'étais déjà préparée. T'sais, mon père m'avait préparée à tout pour le après. Parce que j'étais l'exécutrice testamentaire aussi, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais préparées pour justement me laisser juste vivre ce que j'avais à vivre après. Mais je ne m'étais pas nécessairement préparée à cette chose-là. J'avais quand même écrit un texte pour annoncer aux gens que mon père était décédé, puis une chance, je l'avais fait. Parce que le corps était encore avec moi, puis notre famille. Puis il y avait déjà des gens qui écrivaient dans un de ces groupes de danse qui étaient décédés. Fait que le comment, le pourquoi, c'est vraiment pas intentionnel. Puis je veux même pas savoir de où est-ce que ça part. Là, ouais. J'ai même pas cherché à comprendre. Fait que, tu sais, le corps était là, puis j'ai été obligée d'envoyer la vidéo déjà faite de mon père avec le texte. Parce que, tu sais, je voulais pas que des amis proches l'apprennent de quelqu'un d'autre. Déjà que j'aurais voulu avoir le temps d'appeler, là, c'était déjà parti, tu sais, en branle. Fait que ça s'est fait un petit peu rapidement, mais tu sais, j'ai fermé mon cellulaire après, puis même je recevais des messages. J'ai juste laissé ça de côté pendant un bon 3 jours. Mais c'est ça, ça me faisait penser au petit village. C'est des fois de faire attention à ça aussi, ouais. De laisser place aux personnes, d'annoncer eux-mêmes un décès, tu sais, parce qu'il y en a que ça leur a fait quelque chose d'apprendre ça par un groupe, tu sais, c'est vraiment, ça aurait pu être fait d'une autre manière pour des personnes qui étaient proches de lui. Mais quand même, tu sais, les intentions n'étaient pas mal intentionnées, c'est juste des fois, peut-être la peine, il y en a qui l'expriment comme ça à travers les réseaux aussi, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense, c'est ça les petits villages.
Oui, absolument, oui.
Puis pour clore un petit peu la discussion, tu sais, des soins à domicile, c'est quoi les services que vous pouvez offrir aux patients directement, dans le fond, comme soins un peu plus médical, je dirais. Je pense à, exemple, mettons, ponction d'acide.
Ah, OK, ouais. Écoute, c'est tout un éventail, là. Quand on rentre dans ce sujet-là, là, il peut y avoir mille et une réponses, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que notre mission à nous autres, quand on est en soins palliatifs, puis que le patient veut décéder à domicile, puis qu'il n'y a plus de traitement possible,
ouais.
Ma mission première, c'est de me dire, je veux pas que mon patient se retrouve sur les bancs rouges de l'hôpital à l'urgence pour un symptôme. Qui se présente quand on aurait pu le traiter à domicile.
Ouais.
Fait que oui, on peut faire quand même, on peut pas tout faire à domicile, mais on peut faire quand même plusieurs interventions, dans le fond, à domicile.
Ouais.
On a des infirmières de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi. Donc, mon principal souci, dans le fond, quand je prévois là, quelques jours à l'avance et tout, c'est que mon patient ne se retrouve pas à l'urgence pour quelque chose qu'on aurait pu traiter à la maison. Il y a différents symptômes en soins palliatifs, on pourrait en nommer jusqu'à demain. Puis il y a différents traitements aussi possibles là, quand on communique avec le médecin et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment plusieurs traitements qu'on peut faire à la maison. Là, t'sais, là, on va prendre l'exemple justement de la ponction d'acide. Bien, au lieu de voyager à l'hôpital toujours pour se faire une ponction d'acide, il y en a qui ont un drain permanent, puis on vient vraiment faire la ponction, nous autres, à domicile pour éviter le transport aux patients.
Le déplacement.
Mais somme toute, dans le fond, le principal, c'est vraiment que le patient se retrouve à la bonne place au bon moment avec les bons soins. Si mon patient se retrouve à l'urgence parce qu'il a de la douleur, une difficulté respiratoire, peu importe, qu'on aurait très bien pu gérer ça à la maison,
ouais.
Ça, c'est parce que là, bien, c'est sûr qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas contrôle. Prévoir. Oui, c'est ça. Mais on est capable quand même ouais. d'en éviter pas mal. Ouais. C'est ça notre mission, vraiment.
Okay.
Ouais. Puis on a vraiment justement un service de garde, tu sais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça qui est vraiment apprécié.
Oui, je voulais savoir aussi, pour l'expliquer aussi aux gens, tu sais, soins à domicile, à quelle fréquence que les infirmières, les médecins, dans le fond, il faut qu'ils soient présents sur place à domicile ou, tu sais, en fin de vie, est-ce que c'est plus fréquent, tu sais, un peu expliquer ça, la fréquence de votre présence à domicile directement, mettons.
C'est sûr que moi, j'ai toutes sortes de dossiers différents. Okay. J'ai de patients différents, patientes différentes. J'ai des patients qui sont en soins palliatifs, c'est-à-dire qui n'ont plus de traitement possible pour guérir la maladie, mais qui présentent encore une bonne autonomie. Okay. Fait que ça veut dire qu'ils sont encore capables de conduire leur voiture, sont capables d'aller manger au restaurant avec leur famille. Okay. Donc là, les visites vont être moins rapprochées. On va faire un suivi quand même des symptômes. On va s'assurer qu'on est correct dans nos... c'est ça, qu'on est stable, tout ça. Puis, on a les patients quand même qui sont plus en soins de fin de vie, là, tu sais, qui restent quelques jours, quelques semaines. Là, c'est certain que notre intensité de service va augmenter. Fait qu'il y a des patients que je vais voir une fois par mois. Il y a des patients que je vais voir une fois par semaine. Mm-hmm. Il y a des patients, ça va être 3 fois par semaine. Puis, il y en a que ça va être à tous les jours en fin de vie.
Mm-hmm.
Fait qu'on adapte. Dans le fond, ça, c'est mon travail à moi de me dire, mon patient, il a besoin de quelle intensité de service présentement. et c'est de l'adapter. Ça se peut que j'y aille à tous les jours pendant une semaine parce qu'il y a une problématique X, puis qu'après ça, on soit à chaque semaine. Ça, c'est vraiment mon travail de dire, OK, on est rendu où, de me faire un petit topo avec mon travail d'équipe aussi. Là, j'ai quand même, je dis moi, là, mais c'est... Ça peut être autant l'inhalo qui va prendre le relais au niveau des poumons, ça peut être l'ergo. Il y a plein de monde à notre équipe, puis on est vraiment justement une équipe complète pour essayer de tout gérer à domicile. Autant l'adaptation du domicile, autant les symptômes physiques, autant la travailleuse sociale qui peut venir vraiment alléger au niveau côté psychologique.
La préposée aussi, je pense, qui peut venir donner des soins de bain.
Oui, exactement. Les préposés peuvent venir donner des bains, peuvent venir donner de la médication. Il y a plein d'actes, eux autres, qui leur est délégué. Aux préposés, fait qu'on peut aller dans cette hors d'idée-là, mais tu sais, il y a les organismes communautaires, il y a comme plein de services qui sont méconnus, puis que quand on met toutes les cordes à notre arc, bien là, à ce moment-là, on se dit, oh, on peut le faire. Finalement, tu sais, on n'est pas seul, c'est ça.
C'est beau, puis merci de nous avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
Ah, ça m'a fait plaisir.
De faire, en fait, ce travail-là pour peut-être nos familles, tu sais, puis nos gens qu'on aime simplement, puis... Je trouve que c'est vraiment un métier important, un métier que j'ai vu de mes yeux, tu sais, qu'on vous veut auprès de nous. Puis vous êtes vraiment un membre de nos familles dans ces périodes-là, puis vous êtes important vraiment pour les proches, puis pour la personne aussi qui est malade.
Bien, je trouve ça important justement d'en parler de plus en plus des services à domicile parce que les gens veulent décéder chez eux, veulent décéder dans leur maison. Souvent, c'est très important pour eux. J'ai des patients d'emblée qui voudront pas décéder à domicile. On va respecter ça, c'est parfait. Mais pour ceux qui veulent le faire, je pense que tu sais, il faut avoir toutes les ressources pour le faire. Il faut que ça soit connu. J'ai encore des gens qui me disent « Ah, mais tu sais, c'est impossible ça, prendre soin de quelqu'un. Je connais pas ça, j'arriverai jamais à faire ça. » Mais quand on répand un peu la bonne nouvelle de dire non, l'entraide est là, on a toutes les ressources si
c'est
on veut le faire pour, tu sais, pour le faire.
C'est que c'est méconnu.
C'est encore méconnu. Tu sais, il y en a qui savent que ça existe un peu, oui, des services à domicile pour prendre des prises de sang, des pansements, tout ça, mais c'est quand plus. On dit qu'on prend en charge un patient de A à Z dans tout son cheminement de fin de vie, c'est quand même plus complexe là, qu'on pense des fois. Oui. Complexe et simple à la fois quand on le décortique en étapes. On est capable.
Comme tu dis, je pense que c'est de s'ajuster, s'adapter, puis tu sais, entrer dans la vague, une vague à la fois, justement, aussi, à travers ces étapes-là.
Puis tu sais, on en ressort grandi de ça. Là. On ne peut pas vivre. Moi, à travers tous les patients que je côtoie, je fais toujours des apprentissages de vie, là, tout simplement. Puis j'en ressors toujours grandi. J'ai toujours appris quelque chose, puis les proches aidants, c'est la même chose. Quand on passe à travers de ça, c'est sûr que ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer.
Tellement.
Ça nous fait voir les choses sous un autre angle aussi. Là.
Ça change notre perception de la vie.
Absolument, c'est ça. C'est quoi finalement qui est vraiment important dans la vie? Tout ça, là, ça nous fait vraiment...
Je voulais te poser la question un peu pour terminer, mais je ne sais pas si tu pourrais vraiment le partager niveau confidentialité. Dans le fond, je voulais savoir, c'était quoi ton moment le plus, justement, peut-être touchant que tu t'es... que toi, en tant que personne, tu t'es senti plus grandi en accompagnant quelqu'un en soins à domicile.
J'ai vraiment plein d'exemples qui me viennent en tête que j'aurais pu détailler des belles histoires, mettons, là, mais tu sais, ce que je racontais un peu tantôt, de voir la dynamique familiale qui se rapproche souvent quand la personne est décédée, cette dynamique familiale-là rapprochée, les frères et sœurs qui se serrés, tout ça, on dirait qu'il y a une partie qui reste après.
Ouais.
Ça, c'est vraiment, c'est vraiment le fun de voir ça.
Ouais.
Les trucs qui m'ont le plus touchée, c'est sûr que quand ça touche des enfants, j'ai moi-même des enfants, c'est sûr que c'est très touchant. Pour moi, c'est des moments qui sont quand même vraiment émouvants. Quand c'est quelqu'un de mon âge, ben là, je m'identifie à cette personne-là. Puis quand c'est quelqu'un qui a l'âge de mes parents, ben là, je me mets dans la peau des enfants qui sont proches aidants. Fait que, tu sais, il y a comme toujours quelque chose qui nous touche, dans le fond, à travers ça. Des exemples concrets, là, j'aurais vraiment aimé ça, t'en as mis, mais sauf que là, c'est sûr qu'il y en a qui vont comme un peu reconnaître ça. Mais on a eu des situations quand même assez...
atypiques.
Puis ça, moi, j'aime ça particulièrement parce que je me dis, quand on sort des sentiers battus, si un patient veut, exemple, avoir une aide médicale à mourir, mais plus d'une façon un peu plus hors de l'ordinaire. Moi, j'aime vraiment ça, contribuer.
Si je te pose une question, si ça se peut. Exemple, que je te dis que j'aimerais ça, moi, je sais pas, c'est décédé avec l'un des médicaments à mourir dehors, devant le fleuve. Est-ce que ça se pourrait?
Bien là, il y a tout un contexte à ça. Là, ça dépend toujours, est-ce que c'est sur un terrain privé? Mm. Est-ce que c'est... Il y a comme plein de choses à voir, mais on a fait des petites demandes spéciales là, pour des patients que ça leur tenait à cœur. Puis vraiment, je trouve ça le fun parce que c'est... dans ce temps-là, on n'a vraiment pas l'image là, d'un patient qui est dans un lit d'hôpital, dans un hôpital, puis je dis pas que ces places-là sont pas correctes, là, ils offrent des super de bons soins.
Ouais.
Mais quand on a une fin de vie qui répond vraiment, tu sais, avec un patient qui a travaillé toute sa vie dans tel domaine, puis qu'on va aller vraiment chercher ça pour sa fin de vie, puis lui ressembler, ça, c'est vraiment beau.
C'est là. Beau.
Ouais,
c'est
avec beau. Ses animaux de compagnie, avec tout, tu sais, c'est...
Ouais.
C'est comme on est ailleurs.
Ça aussi, c'est ailleurs. C'est ça. Tu parles des animaux, puis je me rappelle du chien à mon père, en plus, quand il est décédé, puis qu'il a fait vraiment son dernier souffle, c'était spécial.
Oui.
Parce qu'à Jappé, pas tant que ça, juste quand le monde rentrait, mettons, là, il n'y avait personne qui était rentré, puis aucun bruit. Puis quand il a lancé son dernier souffle, elle était à côté, puis je sais pas pourquoi, elle a regardé, mais elle a fait... puis elle a comme, on dirait, je sais pas pourquoi, là, je parle pas le langage de chien, mais tu sais, elle a comme parlé.
Ouais, je comprends.
C'était spécial comme moment, puis... mais c'est ça. Je trouve ça beau, justement, de pouvoir mettre en lumière un peu ce que la personne aimait pour une fin de vie, tu sais, puis je trouve ça important que ça soit à la personne, puis que ça soit un beau moment, tu sais, qu'on rende ça plus doux, je dirais.
Oui, vraiment, vraiment. Ça entame le processus du deuil aussi pour tout le monde.
C'est ça, exact. Mm. Bien, merci de nous avoir partagé tout ça. On est rendu déjà à notre moment d'impact. Donc, je ne sais pas si c'est un peu c'est quoi.
Non.
Dans le fond, à chacune de mes épisodes, je partage une technique d'impact. Dans le fond, c'est une technique qu'on peut utiliser avec un peu n'importe quelle clientèle pour emmener un message. Puis, on peut adapter aussi le message en fonction de la technique. Fait que j'en fais une avec toi.
OK.
Tu vas être ma testeuse de cette technique-là. Puis, dans le fond, c'est une technique qui était... En fait, beaucoup de mes techniques pendant les podcasts sont par elle. Elle s'appelle Dani Beaulieu. C'est sur Académie Impact, si tu veux aller retrouver. Elle a comme plusieurs petits cartons avec plusieurs petites phrases techniques. Puis des fois, tu parles de proche aidant, là, pour emmener des sujets. Ça peut être intéressant des fois d'emmener des objets, d'emmener quelque chose qui marque la personne pour faire comprendre un message selon le contexte. Fait que dans le fond, on va juste échanger le carton. Tu vas le prendre, tu peux me le redonner. On va même le donner à Juju, Justin. Il est bien trop loin. Encore. Là, tu vas leur donner à Claudia. OK. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Avez-vous une idée de qu'est-ce qu'on vient de faire?
Un partage.
Un partage. Toi, Justin, qu'est-ce que tu dirais? Tu peux te dire pareil.
Ben, un échange.
Un échange. OK. Dans le fond, là, qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? C'est qu'on vient de laisser une marque sans même s'en rendre compte, sans qu'on en prenne conscience sur le moment. Fait que oui, c'est un partage, un échange, mais on a marqué quelque chose. Puis c'est un peu ce que toi, t'as fait en passant dans nos vies. Tu nous as marqué profondément. T'as marqué les derniers jours de vie de mon père aussi. T'sais, puis juste en prenant ton bras, puis en te regardant dans les yeux, puis en te disant merci, c'est parce que tu l'as profondément marqué. Puis je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il faut être conscient de la marque qu'on laisse, puis de la marque qu'on veut laisser aux autres. Puis l'équipe des soins à domicile, là, vous êtes merveilleuses, vraiment, là, parce que là, vous étiez toutes des filles là, de mémoire, ouais. Là, de ce que je me rappelle. Puis je pense que la marque que vous laissez est importante. Puis je voulais vraiment démystifier ça aujourd'hui. Tu sais quoi, les soins à domicile? Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait avec nous. Enfin, voilà, c'est la petite technique d'impact qu'on peut utiliser pour plusieurs contextes, mais moi, je voulais l'adapter à toi.
Ah, puis, c'est bien.
On soit à domicile, fait que je vous remercie vraiment pour ça. Puis pour terminer, pour terminer, si tu aurais un seul mot à identifier au terme différence, lequel ce serait?
Oui, ça, tu me l'avais posé avant pour que je puisse y réfléchir un peu. Puis j'ai réfléchi à ça. J'en suis venue à la conclusion que le mot que j'identifie à différence, c'est richesse. Parce que je me suis dit, dans le fond, que, tu sais, la différence, là, c'est... Il y a plusieurs définitions à la différence, mais moi, je dis tout le temps que la différence, c'est qu'est-ce qui nous distingue des uns des autres, dans le fond.
C'est tellement vrai.
C'est un peu ça. Puis quand on côtoie quelqu'un de différent, peu importe c'est quoi la différence, ça nous oblige à s'ouvrir à cette personne-là, à le comprendre. Ça nous oblige à... Ben oui, être dans compréhension, mais tu sais, la richesse, c'est que ça nous pousse à nous élever, finalement.
C'est tellement beau, ce mot-là.
Puis je trouve que c'est riche parce qu'on en sort toujours grandi. Tu sais, quand on côtoie quelqu'un de différent, que ce soit en tant que soignant, moi, je parle en tant que soignante, mais ça peut être en tant que... Puis on parle beaucoup de proche aidant, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. C'est que je trouve qu'on s'élève au niveau personnel, mais on s'élève au niveau social aussi, là, tu sais,
ouais,
au niveau...
Ouais.
C'est
comme des apprentissages, puis... Richesse, je trouve ça encore plus beau. C'est la première fois que quelqu'un nomme ce nom-là à date, là. Puis je trouve ça... je trouve que c'est vraiment le mot, je pense, quand on pense à la différence. Richesse, ça nous apporte beaucoup, beaucoup. Puis pas en termes monétaires, évidemment, mais en termes, justement, de
des vraies valeurs.
Des vraies valeurs,
oui. C'est
ouais.
ça, c'est ouais. ça. Fait que c'est ça qui m'est venu.
Oh, mais c'est beau! Je t'insulte, en fait, de prendre un ruban de la couleur de ton choix. Puis tu vas écrire ton nom, puis moi, je vais le garder avec moi, puis tu vas marquer le Andy Caché podcast, en fait, toutes les autres saisons. Je vais garder les rubans de chacun des invités avec ton nom puis ton mot que tu as choisi pour la différence.
Ah, parfait.
Fait que merci à tous nos auditeurs, puis merci à toi
merci,
encore une fois.
Merci.
Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.